Titan Mag. T comme Titan.
Dan comme Daniel.
Le magazine de Titan.
Et Dan.
Le Titan Mag, avec la complicité de l'ami éclairé
Dominique,
avec nous au micro, et de l'ami fidèle Laurent à la technique, vous invite à participer à ces rencontres humaines, ses inspirations de l'instant et son désir imminent. La pratique du sport est un droit de l'homme. Chaque individu doit avoir la possibilité de faire du sport sans discrimination d'aucune sorte et dans l'esprit olympique qui exige la compréhension mutuelle, l'esprit d'amitié, de solidarité et de fair play. J'ai lu cet article de la charte olympique à l'occasion de l'ouverture des Jeux d'hiver à Sochi. L'on a pu voir de nombreuses nationalités se côtoyer et se surpasser pour apporter une médaille au pays. Nous avons voulu aller plus loin dans le voyage. Nous avons pensé pour cela à une femme qui aime le partage et les voyages. C'est ainsi qu'elle devient guide-interprète après avoir roulé son savoir en Angleterre, Inde, Pakistan, Afghanistan. Rentrée en France, elle mène son public dans les châteaux de la Loire, Paris et Versailles. Elle reviendra en Orisère pour travailler dans un écomusée où elle se rapprochera de l'architecture de terre régionale comme internationale. Virus qui ne la quittera plus. Un autre virus qui l'atteint est celui du tourisme accessible à tous et du loisir de proximité. Mais laissons Elisabeth Boivin commenter et compléter son parcours qui n'en finit pas de bondir et rebondir, toujours au plus proche de l'homme, avec un grand H, j'entends, Elisabeth Boivin, dans son patrimoine. Merci, Elisabeth, d'avoir accepté de participer à cette émission. Et tout d'abord, vos commentaires sur ce qui vient d'être si rapidement survolé. Comment vous est venue cette envie de voyage, de comprendre et de partager votre savoir en devenant guide-interprète?
Bonjour et merci de m'accueillir dans vos studios. Alors, cette envie des voyages, ce goût des voyages m'est venue, je pense parfois comme beaucoup d'enfants, par mes parents. Mes parents qui eux-mêmes voyageaient beaucoup en couple et qui chaque dimanche nous conduisaient, mes frères et moi-même, à travers la campagne, dans la région, pas très loin forcément, mais dans la région pour admirer ici un paysage, pique-niquer près d'une chapelle isolée, marcher en Chartreuse ou dans le Vercors, voilà, et... En fait, ils m'ont appris à juste ouvrir les yeux sur la nature et à être curieux de tout. Et j'ai gardé ce goût-là. Alors, cette curiosité, en fait, elle m'a naturellement conduit, après le bac, à faire des études pour obtenir un BTS tourisme. Que j'ai fait vers Marseille et qui m'a ouvert le métier de guide-interprète national. Et à cette curiosité, je le mesure aujourd'hui beaucoup. C'est là aussi la grande ouverture de mes parents qui m'ont laissé saisir une opportunité unique qui a été de partir 2 ans au Pakistan comme préceptrice des enfants de l'attaché militaire et dans le cadre de l'ambassade de France. Alors, ce que je ne savais pas, c'est qu'une guerre allait éclater entre le Pakistan et l'Inde. Et donc, en tant que ressortissante française, eh bien, j'ai été évacuée sur l'Afghanistan avec tous les autres dans un convoi épique un peu, mais voilà, je suis atterrie à Kaboul, une ville que j'ai vraiment pu découvrir, et surtout découvrir sa population au mode de vie contrasté et coloré. Et quand j'y repense, voilà, de cela il y a 43 ans. Donc, ces pays ont bien changé. La prise de pouvoir par les talibans a vraiment bouleversé ce pays. Et je suis très solidaire des femmes qui luttent encore là-bas pour leur dignité, pour leur instruction et pour l'instruction de leurs enfants. Alors, cette expatriation m'a permis aussi de voyager en Iran, du temps du Shah d'Iran et de l'impératrice Faradiba. Et vraiment, j'ai vu là l'art islamique dans des réalisations architecturales de toute beauté, dans des décorations extrêmement sophistiquées, des coupoles de camaïeu de beige, de bleu, enfin. Et je crois avoir vu une des plus belles villes du monde, à savoir Ispahan. Donc j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ce voyage que j'avais fait avec mes parents. Nous nous étions rencontrés à mi-chemin. Et enfin, avant de rentrer en France, j'ai aussi découvert l'Inde. L'Inde qui, pour moi, était un pays qui m'a provoqué un vrai choc émotionnel. C'est quelque chose, quand vous arrivez en Inde, quelque chose vous prend aux tripes et ne vous lâche pas. C'est une atmosphère, c'est quelque chose de très... qui, voilà, vous percevez ce pays par tous les sens. On va parler du handicap, mais c'est... voilà, l'odorat, le toucher, évidemment, tout ce qu'on peut voir de magnifique, le Taj Mahal et tant d'autres... magnifique palais, ou là c'est un mémorial en l'occurrence, mais d'autres palais, des temples extraordinaires entourés de 7 enceintes successives avant d'arriver au centre cultuel le plus précieux auquel les étrangers n'ont pas le droit d'entrer d'ailleurs. Et vraiment, je garde un souvenir et j'espère vraiment y partir, y retourner. En visiteuse, mais encore une fois, mais je pense que les choses là aussi auront bien changé.
Est-ce que c'est difficile à ce moment-là de revenir en France, de revenir chez soi quand on a vu tant de choses? Est-ce qu'on n'a pas toujours, on n'est pas écartelé en se disant, mais est-ce que je dois rester ici? Est-ce que je ne repars pas? On deviendrait baroudeur.
Oui, eh bien, oui, je pense que vous avez raison. On prend un peu, c'est un peu, on devient addict à voyager, on a ce sentiment d'appartenir un peu plus à la planète, si je puis dire. Et comme j'étais dans le milieu des ambassades, eh bien, on a du coup des amis un petit peu dans tous les pays et on a envie d'aller les voir et on trouve que le voyage est facile, enfin bon. Il y a cet aspect-là, et puis il y a cet univers un peu artificiel des ambassades auquel il ne faut pas se laisser prendre. Il faut être très conscient de sa place. Moi, je travaillais comme préceptrice des enfants, donc voilà. Il ne faut pas s'habituer à un certain luxe, d'autant que dans ces pays, le luxe est un peu exagéré, hein, voilà. Donc, il faut savoir revenir très, très simplement dans son pays. Non, en même temps, chaque fois que je suis partie à ces grands voyages, m'ont vraiment permis de comprendre toute la beauté de la France. Vraiment, on est très privilégié d'être dans ce pays. Et j'ai tout apprécié dans ces pays-là, vraiment les paysages, l'architecture. J'aurais aimé être déjà piquée du virus de la terre pour apprécier mieux les architectures de terre au Pakistan et en Inde, mais ce n'était pas le cas encore à ce moment-là. Mais il faut... Vraiment, c'est une manière de mieux apprécier la France, mais je pense que beaucoup de personnes qui voyagent ont ce sentiment en rentrant de dire « Ah oui !»
D'autant plus que suite au palais que vous avez visité dans ces pays comme l'Inde, vous venez de le dire, vous continuez dans les châteaux
oui.
de la Loire. Et...
Oui, quand je suis rentrée du Pakistan, je suis montée à Paris pour exercer mon métier de guide interprète. Et c'est vrai que, alors là, Paris, c'est vraiment superbe, quoi, d'apprendre, parce que finalement, je n'avais pas énormément guidé avant, donc j'apprenais mon métier à Paris, et ça a été une formidable école de rigueur, dans les repérages, dans la conduite de groupe. C'était vraiment, quand on est des dizaines de groupes dans le château de Versailles. Il faut vraiment maîtriser le groupe et se faire entendre, se faire comprendre. Donc, c'est une très, très bonne école. Et c'est vrai que revenir à Paris, c'était... En plus, comme je parlais italien, j'étais très souvent sur les châteaux de la Loire. Et à l'époque, les châteaux de la Loire, c'était, à l'époque de mon guidage, c'était presque un peu artisanal. C'est-à-dire, on nous laissait pratiquement les clés du château et aller guider. Donc, c'était une belle aventure aussi. Et puis, en général, beaucoup d'Italiens sont sur ces circuits des châteaux de la Loire et les Italiens sont très cultivés. Donc, c'était des échanges très riches.
Et est-ce que depuis lors, quand vous faisiez ces guidages, et puis maintenant, est-ce qu'il y a une évolution dans le poste de guide interprète? Est-ce que c'est beaucoup plus demandé maintenant? Est-ce que, ou au contraire, ou peut-être pas du tout changé? Est-ce que vous avez une impression?
Moi, j'ai changé beaucoup. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, il y a toujours ce métier de guide est très, très pratiqué dans des langues qui, à mon époque, quand je les pratique, enfin, quand j'étais guide à Paris, n'étaient pas encore sur le marché, si je puis dire, à savoir le chinois en particulier. Il commençait le japonais, où il y avait beaucoup de japonais, mais il n'y avait pas autant de chinois que maintenant. Donc, oui, parce que... Enfin, évidemment, vous avez aussi beaucoup d'outils de médiation technique, comme les...
Ah oui, avec audio...
Voilà, les audio-guides qui vous permettent de visiter tout seul. Mais le guide qui privilégie quand même la relation humaine et le contact, l'interaction entre le groupe, oui, et le guide est quand même très prisé encore dans les visites de musées. Heureusement. Heureusement.
Donc, vous voilà réinstallée dans la région et vous parlez du tourisme pour tous. Est-ce que c'est cela part de votre propre travail?
Alors, oui, effectivement, je vais arriver au tourisme pour tous. Je veux juste, dans l'évolution de mon métier, je suis revenue sur la région, effectivement, et j'ai intégré l'équipe d'ethnologues de l'écomusée Nord-Dauphiné. Et ça, je tiens à marquer cette étape parce que j'ai eu deux changements importants. D'une part, j'ai commencé à concevoir moi-même les circuits que je guidais. Et ça, c'est une satisfaction vraiment très forte que j'ai développée plus tard dans les fugues du Festival Berlioz. Et j'ai aussi vraiment travaillé mon commentaire. Comme je partais très souvent à partir de thématiques qui avaient été nourries par les études ethnologiques, j'ai mis l'homme au milieu de mon commentaire. J'ai recentré tout mon commentaire sur l'homme et sa formidable inventivité avec son environnement, en utilisant son environnement pour se nourrir, pour se soigner, pour se loger. Évidemment, dans les architectures de terre qui sont le mode de construction vernaculaire de notre région et dont je poursuis l'évolution et l'aspect tout à fait contemporain maintenant. Donc, c'est ce passage à l'écomusée Nord-Dauphiné, qui malheureusement n'existe plus, eh bien, a été marqué par ça, parce qu'après, vraiment, comment vous dire, j'avais l'impression que quand j'étais dans les châteaux de la Loire, je commentais un beau décor, voilà. Alors que là, je suis dans des paysages extrêmement simples, l'œuvre de bâtisseurs locaux, et ou d'agriculteurs, de gens du terroir. Je donne des clés de lecture et sur cette capacité qu'a l'homme d'utiliser son environnement. Et ça, c'est très simple et en même temps, c'est très nourrissant.
Je suis une souris gueule de nuit et je vais, je viens, je pense, pense. Je suis pas du jour gueule d'amour, d'ailleurs je suis de Montparnasse, Nasse. Cherchez pas de mystère, j'en ai pas. J'ai bon caractère, mais faut pas. Trois pouces grand-mère, d'un faux pas. Oui, j'aurais pu comme vous, ou comme toi être ronde, ronde. Mais c'est foutu, c'est classé, car Dieu m'a préféré longue, longue. Pour ce que j'ai à faire, ça me gêne pas. On peut pas se refaire, gêne ou pas. Passez donc la main dans la main. Et viens, je voudrais voir l'automne dans le petit matin, quand le ciel s'étonne sur le canal Saint-Martin. Au lieu de ça, je trime. Alors j'imagine que je vois l'automne dans le petit matin et je m'abandonne, mais j'en rêve et c'est bien. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu ça. Je voudrais voir l'automne, l'automne avec toi. Parfois je pense à ce que j'aurais pu être, être. Tiens la goule du Malibran ou la divine peut-être, être. Ah les années 30, 31, monsieur de truc ou de machin, tu prenais ta vertu et t'avais pignon sur la rue. Je me serais payé dans mon fiacre un drôle de tour du monde, monde. Et les montagnes au lac, je l'aurais dansé ma ronde, ronde. En bas à beauté, dans mon fiacre, et toi chapeauté, chapeau claque. On s'en serait allé à les fouettes cochées. Et viens, viens donc voir l'automne dans le petit matin, quand le ciel s'étonne sur le canal Saint-Martin. Non mais t'imagines, au lieu de ça je trime. Je voudrais voir l'automne dans le petit matin, quand le ciel s'étonne de Passy à Pantin. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu ça. Je voudrais voir l'automne, l'automne avec toi. On peut rêver, rêvasser à ce qu'on aurait voulu être, être. Mais c'est foutu, c'est classé, ce n'est pas plus mal peut-être. Être là à la fin du jour, gueule d'amour. C'est bientôt la nuit, gueule de nuit. En robe de lumière, je serai à mon affaire. Viens, après tout l'automne, dans le petit matin, quand le ciel s'étonne, on verra ça demain. Viens, la ville s'allume et Paris s'enflume. Après tout l'automne, dans le petit matin, qu'est-ce que ça peut faire puisqu'on s'aime et c'est bien. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu ça. C'est toi qui m'étonnes. Tu la la la. Je suis ta souris gueule de nuit et je vais, je viens, je pense, pense. Y'en a que c'est de Saint-Denis, moi que c'est de Montparnasse, Nasse.
Couleur FM 97.1 avec notre invitée Elisabeth Boivin. Et nous venons d'entendre Barbara dans Gueule de nuit.
Alors, Elisabeth Boivin, comment concevez-vous vos circuits touristiques dans la région et en particulier dans le cadre du Festival Berlioz ?
Alors, dans le cadre du Festival Berlioz, j'avais voulu un concept assez précis, c'est-à-dire je souhaitais rayonner dans un rayon de 50 km autour de la côte Saint-André, lieu du festival, pour qu'il n'y ait pas énormément de cars à faire. Je souhaitais travailler par thématique. Les premières ont été sur la ville de Berlioz, autour de la ville de Berlioz, et puis ensuite, ça c'est un peu, les thèmes se sont élargis. Je souhaitais faire le plus possible de choses chez des particuliers, que ce soit des propriétaires privés ou des associations. Enfin, sortir des sentiers battus, offrir des choses à voir qu'on ne pourrait pas voir autrement. Et dans mon idée première, ces circuits seraient destinés aux festivaliers. Et en fait, j'ai eu la surprise aussi de voir beaucoup de gens de la région qui ont trouvé là une occasion de mieux connaître leur région. Et même parfois de découvrir des châteaux ou des... où leur grand-mère avait travaillé comme domestique à l'époque. On avait vraiment cet accueil privilégié. Alors, ça demandait énormément de travail en amont, de repérage, de contact. Mais vraiment, j'ai pu pendant 15 ans. J'étais partie pour faire ça 2 ans. Enfin, ça a duré très longtemps. Et... au départ, on a commencé avec des tout petits, un ou deux tout petits minibus. Et puis voilà, après, ça s'est terminé par un quart de 60 personnes, dont à peu près les trois quarts étaient des fidèles. Et qui, parce que chaque année, les deux ou trois circuits que je proposais étaient différents. Et vraiment cousus sur mesure, quoi, vraiment. Donc, ça a été un vrai régal pour moi de les concevoir. Et puis, je crois aussi pour les visiteurs d'y participer. Et avec beaucoup d'interactions, ça m'a beaucoup... Je passais très facilement le micro aux personnes qui
avaient des connaissances,
qui avaient des connaissances sur la région que je n'aurais jamais pu trouver dans un livre. Je me souviens en particulier d'une dame qui me dit... Nous venions d'être reçus, d'avoir une visite dans la chocolaterie Bona à Voiron. Et cette dame me dit, en remontant dans le car, elle me dit, vous savez comment Monsieur Bona, père, vérifiait la qualité de ses chocolats? Alors, je lui dis, ben non, je ne sais pas. Elle me dit, moi, parce que mon père était du même âge que Monsieur Bona. Et en fait, M. Bonnat faisait une boîte de chocolat. Il l'envoyait, mettons, à l'autre bout de la terre, enfin, au Japon ou ailleurs, et ça a une adresse totalement improbable. Et la boîte de chocolat revenait 2 ou 3 mois plus tard et il vérifiait le contenu de la boîte pour savoir si ces chocolats s'étaient bien comportés. Et voilà, c'est le genre de choses, vraiment, je disais, mais prenez le micro, dites ça aux autres, parce qu'ils ne le trouveront nulle part. Donc voilà, ça a été une belle aventure.
Est-ce que vous continuez maintenant avec le musée de Bourgoin-Jallieu? Il me semble que j'ai lu que vous refaisiez de ce genre d'escapade.
Oui, voilà, ben voilà, j'ai un partenariat maintenant avec le musée de Bourgoin-Jallieu, effectivement. Lors des journées européennes du patrimoine, sur des thématiques diverses aussi, je fais des circuits. Il y en aura un très prochainement sur un circuit de ville autour de l'art nouveau et l'art déco. Et puis, alors, je crois que c'est le 23 février et le 30 mars, c'est un circuit sur les usines pensionnats dans le quartier de Boussieu, qui est une tranche d'histoire assez intéressante sur ce quartier, a beaucoup d'identité.
Et que vous aimez beaucoup. Et
oui.
Vous en parlez dès que vous le pouvez.
Avant de parler de ce circuit Art Nouveau, qui paraît intéressant a priori, quand vous incluez un château dans une visite, comment est-ce que vous faites? Vous êtes obligé de préparer. Comment est-ce que vous faites pour vous approprier le lieu, peut-être un petit peu de son histoire, et puis sa localisation, son rôle dans la région, etc., etc.
Oui, voilà, c'est un gros travail en amont du guidage. Et effectivement, je travaille à partir de la thématique, je travaille sur les distances, sur la faisabilité du circuit. Et puis, bien sûr, je prends contact avec les propriétaires. En général, je fais une visite de repérage Alors là, bien, les propriétaires me confortent dans les centres d'intérêt que présente le château, me font visiter en préalable les lieux, et je vois si ça cadre dans le... Enfin, en général, ça cadre quand j'ai la chance de pouvoir aller dans un château avec un accueil personnalisé. Bien sûr que ça se fait. Maintenant, ça devenait de plus en plus difficile avec les fugues parce que les groupes étaient importants. Et puis aujourd'hui, j'ai eu quelques refus parfois parce que voilà, les gens prennent des photos, on a peur que ces photos se retrouvent sur Internet et que ça favorise certaines visites. Voilà. Donc, c'est plus difficile maintenant de réaliser ce type de circuit. Mais ça a été une belle période et avec des contacts très, très intéressants avec les gens.
Alors, toujours dans ce cadre du tourisme, vous avez consacré un point important à la formation, mais pas n'importe quelle formation. Là aussi, racontez-nous votre façon d'agir et de perpétuer ce métier.
Alors, quand... tout ça, c'est un peu imbriqué, en fait. Si vous voulez, à l'écomusée, j'avais reçu des gens de la maison familiale rurale de Vigneux, qui était en train de mettre en place un BTA, un brevet de technicien agricole tourisme. Et à un moment, ils m'ont demandé de faire partie du comité de pilotage, ce que j'ai accepté. Et ensuite, un peu plus tard, de rentrer dans l'équipe pédagogique. Et c'est vrai qu'à cette époque, j'avais vraiment envie... Alors, ça m'a pris... Enfin, je transmettais déjà à travers mes guidages, mais une envie de transmettre à peut-être par la formation à des gens plus jeunes, à des jeunes. Et donc, j'ai accepté d'être dans cette équipe pédagogique. Et là, vraiment, c'est pareil. Je me disais, bon, ben, j'ai la chance de faire ça. On verra bien combien de temps ça durera. Et petit à petit, vraiment, on se nourrit de la réussite des élèves. Quand on voit des élèves réussir, c'est vraiment... c'est vraiment ça vous donne
ça
de...
transporte.
Oui, ça, oui, ça...
Ça vous stimule.
Ça stimule, ça donne envie de continuer, d'approfondir les choses. Donc, ça, c'était en formation initiale. Et la maison familiale de Vigneux fait toujours, d'ailleurs, des formations dans le secteur sanitaire et social. Et il y avait cette formation tourisme aussi qui était là. Et en 2003, nous avons assisté avec une collègue à un colloque à Grenoble. C'était l'année européenne des personnes handicapées, où la région Rhône-Alpes mettait en place des actions très fortes pour le tourisme des personnes en situation de handicap, en particulier en montagne, avec des équipements appropriés, des accessibilités. Et en revenant de ce colloque avec ma collègue, on se disait, mais voilà, ils sont en train, la région Rhône-Alpes est en train de favoriser une accessibilité technique, beaucoup technique au tourisme pour tous, si je puis dire. Et quelle réponse humaine nous pourrions-nous engager parallèlement à ça? Et c'est de là qu'est née cette idée d'une formation qui, à l'époque, s'appelait coordinateur en loisirs et tourisme adapté, où nous avons voulu conjuguer des compétences à la fois sanitaires et sociales et à la fois tourisme-animation pour que des personnes en situation de handicap puissent passer leurs vacances en inclusion dans des sites au milieu de personnes valides. C'était l'idée, c'est vraiment que, voilà, ils sont des citoyens à part entière, pour certains, ils travaillent dans des ESAT, pour certains, ils ont des familles qui les soutiennent, ils peuvent avoir un petit budget vacances, et voilà, il fallait que c'était intéressant de faire qu'il puisse trouver une offre en matière touristique classique et offrant la même qualité de prestation que pour n'importe quel clientèle lambda, quoi. Voilà. Donc, c'est dans cet esprit qu'on a lancé cette formation et nous en sommes aujourd'hui à la 11e promotion. Et cette formation était pour adultes. Elle n'était pas une formation initiale. C'est une formation pour adultes soutenue par la région Rhône-Alpes. Et il y a deux niveaux de diplôme. Maintenant, il s'appelle concepteur d'accueil tourisme-loisirs handicap. Et ce diplôme est inscrit au RNCP, qui est le répertoire national des certifications professionnelles. Et une autre qualification qui s'appelle agent d'accueil et d'animation en loisirs tourisme adapté. Et donc,
formation se fait en combien de temps ?
6 mois. Et c'est une des rares formations qui est sur 6 mois relative au handicap. Très souvent, on a des petits modules courts qui viennent aider des gens qui sont déjà en poste à mieux accueillir des personnes en situation de handicap. Là, c'est vraiment une formation sur 6 mois avec 2 stages. Un premier stage en établissement spécialisé pour bien cerner les attentes de la personne en situation de handicap. Et un deuxième stage dans une structure de tourisme pour y mener un projet d'adaptation. Alors, on a remarqué, enfin, on s'appuie aussi sur des enquêtes qui montrent que les personnes en situation de handicap avaient 3 demandes très fortes par rapport au fait de partir en loisirs ou en vacances. C'est l'accessibilité, bien évidemment. La fiabilité de l'information, c'est-à-dire ne pas arriver dans des lieux qui disent « on est accessible » et qui ceci n'a pas été testé. Donc, c'est une déclaration où on part du principe que la personne est toujours accompagnée. Or, il y a des personnes qui sont en situation de handicap et qui partent toutes seules. Mais parfois, elles se retrouvent avec un obstacle difficile à franchir. Et là, pouf, elles reprennent leur handicap en pleine figure, quoi. Et puis, ces personnes demandaient dans les enquêtes, ce qui ressortissait, c'était une demande de professionnalisation des acteurs touristiques par rapport à l'accueil de ces personnes qui ont des déficiences. Donc, on est rentré dans cette démarche. Et un point fort qu'on a voulu dans cette formation, c'était que la personne handicapée ait 3 postures. Une posture dans un stage où on va l'assister parce qu'on est dans un établissement spécialisé et que le stagiaire va apprendre à assister ou regarder comment on assiste ces personnes. On a voulu des personnes en situation de handicap enseignantes qui là était l'experte et qui enseignait aux stagiaires. Donc, on a des intervenants en situation de handicap. Et on a voulu la personne handicapée partenaire d'un projet commun avec les stagiaires pour voir comment on travaille ensemble, comment on mène un projet ensemble. Donc, on a eu des projets d'ateliers de peinture qui se sont terminés par des expositions où les œuvres étaient exposées de manière indifférenciée. On ne savait pas si c'était l'œuvre de quelqu'un de valide ou d'une personne en situation de handicap. On a eu des projets de danse, on a eu des projets de vidéo, de chant. Enfin, c'était très intéressant chaque fois avec des personnes handicapées qui venaient à la maison familiale. On n'allait pas, ou si on allait, c'était lorsque tout était terminé pour faire participer les autres. Mais tout le travail d'atelier se passait dans un lieu non marginalisé, comme la maison familiale. le but n'était pas d'entrer dans les établissements pour faire de l'animation. C'était justement que les personnes handicapées viennent dans des lieux juste... Voilà. Donc, puis-je appuyer sur les fondamentaux pour terminer cette partie, parce que on a plusieurs fondamentaux dans cette formation. La première chose, c'est que pour nous, la personne handicapée est d'abord une personne avant d'être un handicap. Pour nous, c'est la personne handicapée, elle est dans sa dignité de personne, de son statut social, de son nom. C'est très important pour nous. Et en tant que personne, elle doit garder sa dignité de personne. Et sa dignité passe souvent par l'autonomie. Et cette autonomie, la lui laisser autant que faire se peut. Bien sûr, on sait bien que parfois, c'est très difficile, mais plutôt que faire à sa place, lui demander si elle a besoin d'aide, ne jamais s'imposer par rapport à la personne handicapée. Pour nous, elle est unique, comme tout un chacun, mais se garder d'une généralisation, toute personne est unique, et par ce fait-là, elle a une créativité qui lui appartient et qu'elle peut faire partager aux autres. Donc, elle est source d'enrichissement et de créativité. Et cette personne est aussi, très souvent, le meilleur expert de son handicap, parce qu'elle vit chaque seconde avec son handicap. Et que parfois, c'est elle qui va nous dire « Prenez-moi comme ça parce que ça me fait moins mal » ou « Installez-moi comme ça » parce qu'elle se connaît elle-même, elle vit avec ce handicap, elle peut nous donner des tas de renseignements elle-même sur ce handicap. Et pour nous, c'est une manière aussi de partager avec elle, enfin de la rendre participative à l'environnement et le travail qui est fait avec elle. On travaille beaucoup en inclusion, c'est-à-dire qu'on est avec des valides. Le but, c'est du tourisme et des loisirs avec des valides. On travaille sur la notion de bien-être. C'est le bien-être de la personne qui nous intéresse. Et ça, c'est toute une question de détail, d'écoute, de sensibilité par rapport à cette personne. Et puis, on travaille sur cette approche citoyenne qui est de parfois, il faut un peu militer, il faut convaincre, il faut... Mais voilà que ces personnes sont importantes pour notre société. On ne peut pas s'en priver. On ne peut pas se payer le luxe de se priver de gens qui sont aussi importants pour la société. C'est travailler avec des personnes handicapées, on est toujours sur l'essentiel et ils ont une énergie énorme à nous communiquer pour travailler avec eux. C'est vraiment très, très enrichissant, nourrissant. Et puis, c'est eux qui nous donnent l'énergie pour faire bouger les lignes. Voilà.
Il est de ces événements qui sortent tout le reste de nos pensées. Certaines circonstances qui nous stoppent net dans notre lancée. Il est de ces réalités qu'on n'était pas prêt à recevoir et qui rendent toute tentative de bien-être illusoire. J'ai pas les mots pour exprimer la puissance de la douleur. J'ai lu au fond de tes yeux ce que signifiait le mot malheur. C'est un souvenir glacial comme ce soir de décembre où tes espoirs brûlants ont laissé place à des cendres. J'ai pas trouvé les mots pour expliquer l'inexplicable. J'ai pas trouvé les mots pour consoler l'inconsolable. Je n'ai trouvé que ma main pour poser sur ton épaule, attendant que les lendemains se dépêchent de jouer leur rôle. J'ai pas les phrases miracles qui pourraient soulager ta peine, aucune formule magique parmi ces mots qui saignent. Je n'ai trouvé que ma présence pour t'aider à souffrir et constater dans ce silence que ta tristesse m'a fait grandir. J'ai pas trouvé le remède pour réparer un cœur brisé. Il faudra tellement de temps avant qu'il puisse cicatriser. Avoir vécu avec elle et apprendre à survivre sans, elle avait écrit quelque part que tu verserais des larmes de sang. Tu as su rester debout et je t'admire de ton courage. Tu avances la tête haute et tu traverses cet orage. À côté de ton épreuve, tout me semble dérisoire, tout comme ces mots qui pleuvent que j'écris sans espoir. Pourtant, les saisons s'enchaîneront saluant ta patience. En ta force et ton envie, j'ai une totale confiance. Tu ne seras plus jamais le même, mais dans le ciel, dès demain, son étoile t'éclairera pour te montrer le chemin.
FM 97.1 avec notre invitée Elisabeth Boivin. Et pour finir, Grand Corps Malade dans J'ai pas les mots de l'album Enfants de la ville.
Elisabeth, vous travaillez pour la région sur le label Tourisme et Handicap. Qu'est-ce que ce label implique dans la réalité des faits et y a-t-il encore beaucoup à faire ?
Oui, il y a toujours beaucoup à faire, mais on a vraiment... beaucoup progressé. Le label est un label national, c'est l'association Tourisme et Handicap qui est nationale et qui délivre ce label. Il a été mis en place en 2001 et on compte aujourd'hui à peu près 1800 sites labellisés et concernant quatre déficiences, le moteur, le visuel, l'auditif et le mental. Et il concerne différents types de sites, les hôtels, les restaurants, les gîtes, les chambres d'hôtes, les campings, les musées, les piscines, les centres aquatiques, offices du tourisme, zones de loisirs, centres équestres, centres de balnéothérapie. Donc, et je ne les cite pas tous. Donc il y a un vrai travail qui se fait justement, par rapport à ce que demandaient les enquêtes, offre là une information fiable. Parce qu'en fait, la demande de label va entraîner un audit qui sera dans la région Rhône-Alpes, hein, parce que toutes les régions Rhône-Alpes, toutes les régions ne font pas ce même procédé. Mais c'est un audit qui est composé d'une ergothérapeute et d'un professionnel du tourisme, et qui va tester en situation, en partant des places de parking jusqu'à la chambre, la salle de bain et autres, quand c'est un gîte, et qui va tester l'accessibilité du lieu. Et puis aussi discuter avec les propriétaires pour connaître un peu leur démarche, pour comprendre l'accueil qu'ils réservent à ces personnes, comment ça se passe. Et... Donc, c'est un label qui est très exigeant parce qu'on part vraiment, il concerne le tourisme de personnes en situation de handicap en autonomie. Donc, ils peuvent bien sûr être accompagnés, mais nous, les tests, les audits qui sont faits avec beaucoup d'exigence parce que la personne doit être capable de venir et de se débrouiller en autonomie. Donc on est vraiment dans une qualité d'offre, une offre fiable et une offre de qualité. Parce que on est dans un contexte de tourisme commercial avec une qualité de prestation pour un type de clientèle. Et on est là en même temps dans un tourisme pour tous qui est très enrichissant parce que, en général, les rencontres, enfin, quand on discute avec des propriétaires, ils sont toujours très contents et très enrichis d'accueillir cette clientèle. Ils nous le disent tous. Tous ne le font pas, tous n'ont pas cette démarche, mais ceux qui l'ont, en général, n'hésitent pas à nous dire que vraiment, ils en retirent beaucoup d'amitié, de relations. Et il faut savoir, c'est une clientèle aussi qui, lorsqu'elle trouve un lieu qui lui convient, où elle peut même... ils sont toujours très attachés à des repères, eh bien, c'est une clientèle qui va revenir parce que elle aura trouvé son bien-être, noué des relations amicales, et ça, c'est important. Voilà.
Voici notre coup de cœur d'électeur avec Majolir, les passeurs de mots, partenaires de nos passions, complices de nos découvertes, avec le porte-parole Dominique Molin. Et merci Dominique de nous conter votre choix à nous faire craquer l'ossature.
Alors, je vais parler de Zelda la Rouge, de Martine Pouchin, bouquin de 245 pages aux éditions Sarbacane, qui est paru en septembre 2013. Et ce livre raconte l'histoire, ou plutôt la vie quotidienne, de deux sœurs. Zelda, 16 ans, qui s'est fait faucher par une voiture à l'âge de 10 ans. Elle est tétraplégique. Julie, quelques années de plus, aide-soignante dans une maison de retraite. Les deux sœurs n'ont plus leur mère qui s'est suicidée. C'est leur grand-mère qui les a élevées, leur a laissé la maison. Ce que j'ai aimé, c'est que ce n'est pas un livre sur le handicap, c'est un livre plein de vie. Les deux sœurs aiment les rencontres. Il y a Jojo qui tape la cloche depuis qu'il est au chômage. Le vieux Paul qui peint toujours le même arbre tant qu'il n'a pas réussi à en reproduire la quintessence. Il y a Cathy, leur aînée, qui est en même temps leur coloc et qui se trouve trop ronde. C'est un livre des petits, des grands moments de la vie, un livre plein de questions, des questions toutes simples qu'on se pose dans la vie quotidienne et puis celles un peu plus sérieuses qui vous sautent à la figure au moment où on s'y attend le moins. Un livre plein de ces instants ordinaires, ceux du travail, ceux des loisirs, ceux des moments qu'on passe ensemble à la maison, à déguster un bon repas et à parler de tout et de rien. Alors je vais lire un passage, il faut quand même lire ce passage, c'est la première révolte quand on constate ce qui vient de vous arriver, et puis ensuite, comme on peut, petit à petit, on reprend goût à la vie. Je voulais mourir, je ne savais pas comment. On ne sait pas comment s'y prendre pour mourir à 10 ans, bien que ma mère ait donné l'exemple en se jetant sous un train, ce qui n'est plus possible quand on ne peut pas bouger. J'ai perdu mes copines de l'école. Certaines sont venues me voir une fois ou deux, mais quand elles ont su que j'étais handicapé à vie, ça leur a foutu les boules, pire qu'à moi. J'étais plus fréquentable soudain, rien que me voir leur bousillait le moral. Elles n'avaient pas le bagage émotionnel adapté à la situation. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Il s'en est même trouvé pour me dire que j'étais courageuse, parce que moi, à ta place, je me tuerais. Ce n'est pas très important. À 10 ans, on a la vie devant soi pour s'en refaire des potes. Et on s'en refait. Dès à qui c'est égal de te voir dans un fauteuil roulant, vu qu'ils ne te connaissaient pas avant, qu'ils ne peuvent donc pas comparer. Je suis resté longtemps immobile à vérifier mon solde de tout compte après que mes amis sont partis horrifiés. Je ne pouvais pas bouger, je regardais par la fenêtre de ma chambre le ciel d'un bleu impeccable, les touffes vertes des cimes des bouleaux, le petit nuage sur lequel je n'étais pas, heure après heure, jour après jour. Tout était l'ennemi, tout était plaisir interdit. Jusqu'à ce matin où j'ai pu m'asseoir, et le même ciel, les mêmes arbres soudain se sont gorgés de joie pure. Je demandais à l'infirmière d'ouvrir la fenêtre, et les parfums tenus en laisse à l'extérieur se sont engouffrés, se sont mis à pulser, puissants, sauvages, à renverser les montagnes. Un avion signait son trait blanc de gauche à droite, de bas en haut, en réalité une ennuyeuse mécanique, peut-être le Marseille-Copenhague, dans mon âme un symbole, celui d'un appétit retrouvé, de la vie plus forte que tout, plus forte que nous. J'ai compris que la vie valait encore d'être vécue, et puisque je n'avais pas décidé de fermer le livre, il était temps de démarrer un nouveau chapitre. Je résume, bien sûr, Ça ne sert pas de s'attarder. La colère, le désespoir, le pourquoi moi, qui ne les fréquente pas un jour ou l'autre. À 10 ans, c'est plus rare, mais ça dure moins longtemps.
Élisabeth Boivin, c'est l'importance de l'approche littéraire. On parle de bibliothérapie. C'est se soigner par les livres qui restent subtils et qui lient à l'histoire de chacun. Et donc, il y a la lecture, mais il y a aussi l'écriture. Je crois que ça fait partie intégrante d'essayer de s'en sortir, de voir qu'on n'est pas le seul. Et
oui, je pense qu'il y a une importance à mettre des mots sur ce qu'on vit et pour communiquer avec l'autre aussi. Alors, parfois ce sont des mots, parfois on ne peut pas avoir les mots, donc l'écriture, pourquoi pas. Et certains écrivent de très belles choses sans pouvoir eux s'exprimer oralement, ils arrivent à écrire. Et c'est une manière de mieux comprendre la personne et de... Je trouve ce qui est important, c'est de trouver la juste distance avec la personne. Ça, c'est très, très important. Quand on a cette juste distance, on est en accord, on est naturel. Et je crois que c'est les gens en situation de handicap sont souvent hypersensibles, donc ils sentent très bien, très vite. Si vous êtes plutôt en retrait ou trop en avance, trop dans une attitude un peu trop, il faut être juste, naturel. Mais ça s'apprend. Il y a une sorte d'apprentissage aussi à vivre avec des personnes qui sont en situation de handicap. Comme eux, ils doivent apprivoiser aussi notre compagnie, quoi. C'est une alchimie qui se crée et qui crée le bien-être entre les personnes.
Le temps passe. On voulait lire un texte que Julia m'avait envoyé il y a déjà un petit moment. Ce que je peux juste faire, c'est peut-être lire le premier paragraphe et le dernier, mm-hmm. pour donner l'idée. Puis un jour, peut-être, on aura le temps de tout relire. Je suis moi. Il est moi. Nous sommes un et pourtant deux. Il est dans chacune de mes paroles, de mes gestes, de mes pas. Unis pour la vie, vie et mort. Il s'est lié à moi au premier de mes cris. Je ne suis pas partie à ce moment-là. Pour ne pas que j'oublie, il est resté avec moi. J'essaye de ne plus y penser. Il revient, toujours plus cruel, toujours. Et le dernier paragraphe. Non, le bonheur, c'est d'être là. Avec des gens qui tiennent à moi et auxquels je tiens. Peu importe la vie des autres, je ne suis pas parfaite, mais qui l'est. Aucun regret, presque pas. Je veux vivre, ne jamais baisser les yeux, continuer ma route, écrire, lire, sourire. Jusqu'à la fin, je n'ai pas peur. Voilà, c'est un peu pour... donner un complément et aller dans le sens du livre que tu viens de lire. Tu peux nous rappeler le livre que
Zelda
tu nous as...
La Rouge, hein, Zelda la Rouge de Martine Pouchin aux éditions Sarbacane.
Ça donne bien envie de lire et probablement de donner une certaine dimension à l'approche. Élisabeth Boivin, vous consacrez donc à ce loisir pour tous. Il y a d'autres hommes, des femmes et des associations qui se mettent au service de l'handicap. Alors on va en citer quelques-uns, mais on fera à la rentrée littéraire, radiophonique, on fera une émission qui se veut un début d'une série sur l'handicap que nous approfondirions à chaque fois. Et donc, les actions et réactions de chacun de vous qui écoutez nous seront précieux. N'hésitez pas à nous contacter par courriel à contact au singulier couleur avec S, FM, donc couleur FM attaché.fr. Et donc, Nous connaissons un peu l'association Coïncidence à Domarin qui...
Landidance,
en fait.
Voilà, pour les personnes atteintes de handicap mental, de handicap visuel, il y en a un...
physique également.
Physique et visuel, oui. Voilà.
Et il est vrai que j'ai pu participer pour cette compagnie Incidence à la fin de l'année précédente. Tous les élèves présentent, font un spectacle et tous les parents sont là. Et l'émotion, c'était très, très long, mais très beau, l'émotion que l'on avait de voir ce mélange d'handicap et de non-handicapé, et cette fratrie, quelque chose de très fort qui les liait, qui faisait. Et j'ai regardé comme ça dans ma rangée, et toutes les mamans, on était toutes à avoir les larmes aux yeux, parce que c'est magnifique, et se dire ce genre de choses devrait se faire plus souvent, mais nous-mêmes on doit s'habituer. Il y a un certain cap aussi peut-être à passer, comme vous le disiez, Elisabeth, on en fait trop, on n'en fait pas assez, ce n'est pas évident. Et puis vous m'avez parlé des auxiliaires de vie scolaire comme Élise, oui, qui forment à travers la littérature jeunesse.
Voilà, une auxiliaire de vie scolaire, elle accompagne un enfant pendant sa scolarité pour l'aider, soit s'il ne peut pas écrire, c'est elle qui écrit. Enfin, elle ne fait pas à la place d'eux, mais elle vient en compensation de ce que l'enfant ne peut pas faire. Et c'est un compagnonnage, si je puis dire, pendant un certain temps. Et c'est vrai que Élise a été AVS pendant 6 ans. Et elle a formé d'autres AVS. Elle a trouvé comme médiation la littérature jeunesse pour faire comprendre à des AVS, par le biais de la littérature jeunesse, certains aspects du handicap. Et c'était une découverte et en même temps une animation aussi auprès des enfants. Et c'était... Donc livres comme La petite casserole d'Anatole, qui est aux éditions d'Elpire, La petite tâche de Lionel Lenoanic, édition Grande Personne, Ce que Thomas voit, qui est de Christian Merveille et Marion Servet, aux éditions Manière Jeunesse, et Mon petit frère de la lune de Frédéric Philibert, qui est consacré à l'autisme, aux éditions D'un monde à l'autre. Il y a le livre, le DVD, et je crois qu'on peut voir le film sur YouTube. Donc c'est intéressant. Et c'est des approches très simples, très, très vivantes, très simples, et qui peuvent être très éducatives, enfin, ou donner des clés d'attitude ou de compréhension par rapport à des personnes en situation de handicap. Voilà.
On fait parfois appel, enfin, il y a parfois dans les mairies certaines personnes qui, là aussi, entre autres un élu à la mairie de Villefontaine,
ah oui,
qui fait un très très gros travail. Lui, il est élu à la communication,
au sport.
Et donc, il emmène...
Des défis sportifs.
Voilà, des défis sportifs.
Mais il faut que les personnes soient très, très... il y a tout un temps d'adaptation pour bien voir si on ne doit pas emmener quelqu'un sous prétexte d'une animation ou autre, le mettre en état d'échec. Donc il vaut mieux anticiper beaucoup avant pour que chacun se rende compte de sa capacité à faire l'animation et voilà. Et donc il réalise de très très belles expéditions, c'est super. Et puis surtout handi basket. Où là c'est très intéressant parce que des valides peuvent venir jouer au basket en fauteuil roulant, et ça se passe avec des personnes en situation de handicap. C'est vraiment bien d'aller dans ce sens là aussi, et c'est au Hall Cassan le mercredi soir
à Bourgoin-Jallieu. Merci beaucoup, Elisabeth Boivin, de nous avoir fait voyager ainsi.
Mais merci à vous de m'avoir accueillie.
Et nous apprendre à ouvrir l'œil et bien regarder. Merci, Dan.
Merci,
Dominique. Et puis, merci, Laurent. À très bientôt.